Rebonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons poursuivre avec encore deux conférences avant la pause de midi. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir une autre personne qu'il n'est pas nécessaire de présenter en ces lieux, le professeur Dominique Charpin de la chaire d'assyriologie au Collège de France, et qui va nous parler des alliances et consanguinités à l'époque amorite. Donc, on se réjouit beaucoup de t'entendre. Merci beaucoup.
La question de la place du sang dans le rituel de la conclusion des alliances dans le monde amorite n'a pas immédiatement retenu l'attention de ceux qui se sont intéressés aux relations diplomatiques dans le Proche-Orient du XVIIIe siècle avant notre ère. Il a fallu attendre les travaux, comme toujours novateurs, de Jean-Marie Durand pour que cette question soit abordée, notamment dans sa communication à la rencontre assyriologique de 1991, puis dans son cours, ici même, en 2000-2001. Les données qu'il avait exploitées proviennent des très riches archives de Marie, qu'il n'est pas besoin de présenter ici. Quelques textes de Marie laissent entrevoir le rôle du sang dans la conclusion des alliances, comme cette lettre où le roi de Nihria affirme « Depuis toujours, la maison de Nihria et la maison de Marie ne forment qu'une seule maison. Un pacte par le sang, d'Amou, et un serment par les dieux se trouvent placés entre nous. » Mais cette allusion ne permet pas de savoir s'il s'agit d'une expression plus ou moins métaphorique, comme l'image des deux maisons, ou si elle fait allusion à une pratique rituelle précise. Si je reprends aujourd'hui cette question, c'est parce qu'elle a été renouvelée par la publication des textes de Tel Leilan, effectués par Jesper Heidem en 2011. Il s'agit de lettres et traités découverts dans la ville de Shubat Enlil, alias Cherna, en Syrie du Nord-Est, à quelques kilomètres de la ville actuelle de Kameshli. Ces tablettes ont été découvertes en 1987 dans le palais oriental de la ville basse. Elles sont, pour la plupart, postérieures d'environ une à deux décennies à la destruction de Marie, qui intervint en 1760, selon la chronologie moyenne. L'interprétation qui a été offerte de ces documents ne me paraît pas toujours juste, comme je l'ai indiqué dans deux comptes rendus en forme d'article, et c'est pourquoi je souhaite revenir aujourd'hui sur cette question en relisant l'ensemble de la documentation, qu'elle provienne de Marie ou de Tel Leilan. Une distinction doit être faite d'emblée entre deux types de situations, selon que les rois se rencontraient ou au contraire que l'alliance était conclue à distance. Ça peut paraître évident, mais il a fallu attendre 1990 pour que ce point soit souligné et surtout que les conclusions en soient systématiquement tirées. Pendant longtemps avait régné beaucoup de confusion. On avait repéré dans les archives de Marie deux rituels différents accompagnant la conclusion des alliances. L'un consistait à immoler un ânon, Hayaram Katalum, l'autre à toucher sa gorge, Napishtachou Lapatum, et on parle alors souvent du rite du toucher de la gorge, Lipit Napishtim. Le symbolisme de ces gestes était tellement évident à l'époque qu'aucun texte qui les mentionne ne l'explicite, pour notre plus grand malheur, bien entendu. Alors, la plupart des auteurs modernes ont considéré que le rite du Lipit Napishtim était caractéristique de la Babylonie et plus généralement de la partie orientale du Proche-Orient. La nature manifestement amorite de l'expression « Hayaram Katalum » leur faisait voir, au contraire, dans l'immolation rituelle d'un ânon, une réalité typique de la partie occidentale du Proche-Orient. Et dans la conclusion d'une étude, donc parue en 1990, j'ai proposé une autre explication du caractère mutuellement exclusif de ces deux gestes. J'écrivais alors « Aucun texte ayant trait à l'immolation d'un ânon, Hayaram Katalum, ne mentionne le rite du Lipit Napishtim et inversement. Plutôt que d'opposer rite occidental à rite babylonien, il faut surtout faire remarquer que les circonstances diffèrent systématiquement. D'un côté, nous avons le cas où l'alliance est conclue entre les rois au cours d'une rencontre. C'est dans ce cas, et dans ce cas seulement, qu'il est question d'immoler un ânon. Corrélativement, il n'est jamais question dans de telles circonstances de textes mis par écrit. Le rite exécuté en commun et en présence de témoins suffit. Inversement, le rite du Lipit Napishtim est toujours mentionné dans des cas où l'alliance est conclue à distance entre deux souverains, et c'est dans ce cas seulement que le recours à l'écrit est nécessaire pour fixer les termes exacts du serment qui est prêté par les rois qui s'engagent. Cette analyse a été remise en cause récemment par Jesper Heidem, et j'ai déjà répondu sur ce point, mais ce que aujourd'hui je voudrais voir, c'est si le recours au sang était différent selon le type d'alliance auquel on a affaire. Donc on va commencer par les alliances conclues en réunion avant de passer à celles conclues à distance. Lors des alliances conclues en réunion, le rituel le plus fréquemment mentionné, comme je l'ai dit, consistait à immoler un ânon. L'expression la plus courante est d'origine amorite, Rayaram Kataloum, mais on rencontre parfois des mots acadiens équivalents, et an anon se dit alors imeroum au lieu de Rayaroum, et tué se dit dakoum au lieu de Kataloum, ou encore maratsoum, frappé. Donc le caractère supposément amorite du rite est à nuancer. S'agit-il d'un sacrifice ? La réponse, à mes yeux, doit être clairement négative. L'animal mis à mort n'était pas offert à un dieu. Et la seule mention d'une divinité en liaison avec ce rituel figure dans un texte qui rappelle la conclusion du rituel entre deux chefs tribaux, l'un simalite et l'autre yaminite, sous la forme d'une auto-malédiction. « Que je sois maudit si j'ai oublié notre ânon, d'Ougarit, que nous avons tué par devant le dieu Adou d'Alep. » Le vocabulaire n'est absolument pas celui de l'offrande ou du sacrifice. Comment comprendre alors ce geste ? Le seul indice sérieux est la mention que l'on rencontre par deux fois d'un ânon de paix, Rayarum Shasalimim. L'immolation de l'animal avait pour but de créer des relations pacifiques entre les parties prenantes. Faute de sources explicites, tout le reste ne relève hélas que de spéculations plus ou moins heureuses. Abraham Malamat avait expliqué le recours à un geste symbolique, tel que l'immolation d'un ânon, comme destiné à pallier l'absence de textes écrits. Dans une société tribale largement illettrée, les traités étaient conclus non pas au moyen de documents, mais seulement par des gestes symboliques, dans les cas rapportés par les textes de Marie, par le rituel de la mise à mort d'un ânon. Une telle explication n'est guère recevable pour plusieurs raisons. Si l'on n'avait pas recours à l'écrit dans de telles circonstances, ce n'est pas en raison du caractère supposément illettré de la société de l'époque, ça n'est d'ailleurs pas vrai, les chefs bédouins communiquaient entre eux par lettres, et on en a retrouvé beaucoup, mais c'est parce qu'il n'y en avait pas besoin dans le cadre d'une alliance conclue en réunion. L'écrit était manifestement senti dans ce contexte comme une façon de communiquer à distance, et non pas comme un moyen de rendre pérenne un engagement. Alors on a tenté d'expliquer le symbolisme de ce geste dans deux directions. Certains auteurs l'ont interprété comme un rituel de substitution. La comparaison avec le traité néo-assyrien entre Ashur-nirari V et Mati-ilu d'Arpad peut sembler pertinente. Cette tête n'est pas la tête d'un agneau, c'est la tête de Mati-ilu. Si Mati-ilu devait agir contre ce traité, ainsi, tout comme la tête de cet agneau est tranchée, la tête de Mati-ilu serait tranchée. L'âne, ou l'ânon immolé dans les alliances amorites, symboliserait de la même façon le sort qui attend l'éventuel parjure. Il faudrait donc mettre ce geste en parallèle avec les auto-malédictions qui pouvaient être prononcées à la suite du serment proprement dit. Un texte d'alliance paléo-assyrien, découvert à Kultepe, à peu près contemporain des textes de Marie, décrit un geste symbolique certes différent, mais les paroles qu'il explicite montrent là aussi un raisonnement par analogie. « Si nous rejetons votre serment Mamitoum, que notre sang soit répandu comme le contenu de la coupe. » Le texte ne dit pas ce que contenait la coupe, mais il me semble que là n'est pas l'important. Alors, on pense évidemment à du vin, parce que c'est ce qui ressemble le plus à du sang. Ça n'est pas dit, mais ce qui compte, c'est le geste qui consiste à répandre le liquide qui se trouvait dans la coupe et qui symbolisait manifestement le sang décontractant, quelle que soit sa nature. L'interprétation la plus simple de l'immolation de l'ânon va dans le même sens. Dans la mesure où les textes mettent avant tout l'accent sur la mise à mort de l'animal, on peut supposer qu'elle annonçait le sort qui attendait un éventuel parjure. Plus récemment, d'autres auteurs ont vu dans ce geste un rituel établissant la consanguinité entre les contractants. Bertrand Laffont a écrit « Ce rituel, celui du sacrifice de l'ânon, est manifestement l'expression d'une alliance conclue par le sang, in ad amim, faisant des protagonistes des parents par alliance. » Cette interprétation me semble moins probable pour deux raisons. Aucun texte ne fait allusion au sang de l'ânon tué, et l'utilisation de sang animal pour créer une consanguinité serait étonnante. Comme on le verra dans un instant, les seuls textes qui explicitent le rôle du sang montrent qu'il s'agit du sang des rois qui se jurent fidélité et pas celui d'un animal immolé. L'essentiel semble avoir été le lien qui existait entre la mise à mort de l'animal et l'énoncé du serment par lequel on s'engageait. C'est ce que certains textes expriment de manière ramassée. Ensuite, s'étant concertés, ils ont tué des ânons en disant « Notre Seigneur est notre seul Seigneur ». Et donc, nous nous l'osons en disant « Et de même que cet animal est mis à mort, de même, soyons mis à mort si nous ne respectons pas l'engagement que nous venons de conclure ». Le rôle du sang dans ce contexte est récemment apparu plus clairement grâce à deux lettres découvertes à Tell Eilan dans le contexte que j'ai rappelé en commençant. L'une de ces lettres fut adressée par le roi d'Elouchout Choukrouteshoub au roi d'Apoum Tilabnou. « En ce qui concerne les gens à propos desquels tu m'as écrit, je ne les libérerai pas. » Par ailleurs, on a dit « Ainsi parle Tilabnou, je veux monter vers Elouchout. » La réponse, jusqu'à ce que tu sois monté, que moi et toi nous nous soyons vus, que nous ayons prononcé le serment par les dieux entre nous et que des liens du sang aient été établis entre nous, jusque-là, je ne relâcherai pas ces gens. Alors, malheureusement, dès qu'on a un texte un peu plus explicite, on reste frustré parce qu'on voudrait en savoir plus et le texte ne nous dit malheureusement pas de quelle manière ces liens du sang pourrait être établi, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le roi d'Elouchout indique que ce sera lors d'une rencontre avec le roi d'Apoum. Et on a une lettre de Marie qui est un peu plus précise. « Allons, fais ta jonction avec Shibti Ilou, arrangez cette affaire ensemble, frotte-toi de son sang, que l'on voit que tu as confiance en lui. » Donc là, il y a carrément l'idée que quelqu'un qui va s'engager va se frotter avec le sang de son partenaire. Et ici, le geste devait être accompli lors d'une rencontre. Dans le cas des alliances conclues à distance, les rois s'échangeaient des tablettes sur lesquelles était inscrit le serment que chacun souhaitait que son homologue lui prête. L'énoncé du serment était accompagné d'un geste symbolique, le fait de se toucher la gorge, le lipit napishtim, et, comme je l'ai déjà dit, de même que pour l'immolation d'un âne, l'explicitation du geste ne figure dans aucun texte. On a longtemps cru qu'il s'agissait pour le roi qui s'engageait de montrer qu'il mettait en jeu sa propre vie. Les choses pourraient être bien différentes. Il se trouve qu'une lettre découverte à Tell Eilan apporte à cet égard des précisions tout à fait surprenantes. Un roi y déclare « J'ai organisé une expédition, cassure, et j'ai fait apporter le sang de Tilabnou. Avant que nous ne fassions sortir les troupes pour l'expédition, touchons son sang et prononçons un serment par les dieux. Lorsque nous aurons touché son sang et prononcé un serment par les dieux, que Yahilpi, Belchounou et Yasrar Dagan fassent route la nuit même, de sorte que dès le lendemain, Tilabnou, ses fils et, sans doute les anciens de son district, qui marchent à sa suite, touchent mon sang et prononcent le serment par les dieux, et que la nuit même, ils reviennent ici, et que le lendemain, et puis malheureusement, la suite est cassée. Donc on voit ici comment l'auteur de la lettre décrit une cérémonie en deux temps, ayant reçu le sang de Tilabnou, lui-même et d'autres personnes auprès de lui, doivent toucher ce sang et prononcer le serment d'alliance, et dès le lendemain, le roi qui écrit doit faire porter son propre sang de façon que Tilabnou, ses fils et sans doute ses anciens agissent de la même manière. Comment le sang auquel cette lettre fait allusion fut-il transporté ? Dans la mesure où il est question que chaque roi puisse toucher le sang de l'autre, on s'attend à ce qu'il ait été placé dans une fiole ou tout autre récipient. Là encore, le texte ne nous le dit pas. Mais quoi qu'il en soit, la question fondamentale, c'est de savoir si ce texte décrit une conduite inhabituelle ou si, au contraire, il explicite, pour une fois, ce qui reste ordinairement implicite. Dans le premier cas, il faudrait comprendre qu'en principe, ce lien du sang se créait lors d'une rencontre entre rois, comme on l'a vu avec la lettre numéro 89, et la situation décrite dans la lettre 185 aurait ceci de particulier que les rois ne se seraient pas rencontrés et que l'alliance aurait dû être conclue à distance, d'où la nécessité exceptionnelle de transporter le sang de chaque roi. Un peu compliqué. Si l'on opte pour la deuxième solution, il faudrait comprendre que l'expression « napishtam lapatum » aurait un sens bien différent de ce que on imagine habituellement. Ce serait avec le sang de son partenaire qu'un roi aurait touché sa propre gorge. Et dès lors, le sens du rituel serait complètement différent. Il ne s'agirait pas de mettre en jeu sa vie en cas de parjure, mais on aurait affaire à un rite établissant la consanguinité entre les rois. Alors, tout ce que je viens de dire permet de revoir l'interprétation d'une lettre de Marie que j'ai citée il y a bien longtemps. Le contexte, c'est le siège de la ville de Razama, qui est la ville du roi Sharaya, et le roi Atamroum, qui assiège la ville, a écrit au roi de Marie Zimrilim pour lui demander des troupes. Et un chef nomade proche de Zimrilim suggère au roi de Marie la façon de lui répondre. Au sujet des nouvelles concernant Atamroum, qui a écrit à Monseigneur « Envoie-moi des troupes ». Que Monseigneur lui réponde ainsi. Et toute la suite, c'est donc la lettre que l'auteur de ce document suggère à Zimrilim d'écrire comme réponse. À présent, interroge Amurabi, Hatnurabi, Sharuka Kikalima, les rois qui sont devant toi, ainsi que ton serviteur Yanur Samar. Entre moi et Sharaya, il y a un pacte par le sang et un engagement solennel a été placé. « 100 bédouins et 100 de mes sujets des bords de l'Euphrate avec moi, c'est-à-dire 200 de mes sujets de confiance, notables de mon pays, se sont tenus lors du pacte par le sang et je lui ai prêté serment par le Dieu. » À nouveau, lorsque mon père, l'empereur Élamite, m'a écrit pour me demander des troupes, je lui en ai envoyé. Or, j'avais écrit à Carnilim, « N'es-tu pas de mon sang ? Envoie-moi tes troupes, qu'elles se couchent sur ma couche. » Façon symbolique de parler de l'union de deux armées entre deux alliés. Mais il ne m'a pas donné de troupes et on l'a mis à l'épreuve. En outre, j'ai écrit à Sharaya, « Tu es de mon sang, donne-moi tes troupes afin que tes troupes se couchent sur le lit de mes troupes. » On a une lacune et la fin, c'est « Si tu assièges une autre ville, alors je te donnerai des troupes, je ne peux pas t'aider à attaquer un de mes alliés. » L'emploi du mot « sang » dans ce document d'Amou semble un raccourci, d'où la traduction « pacte par le sang » ici retenue. Donc, malheureusement, une fois de plus, Ibal-El ne décrit pas le détail de la cérémonie dont il rappelle l'existence, mais la reprise de l'expression permet de comprendre que les 200 notables du royaume de Zimrilim ont été présents lors de cet engagement rituel et en ont été les témoins. Le roi de Marie ne peut donc pas aider militairement Atamroum, ennemi de Sharaya, avec qui il a conclu une alliance, parce que, tout simplement, ses propres troupes ne le suivraient pas. Ce texte a, dans un premier temps, été considéré comme décrivant une alliance conclue en réunion entre Sharaya et Zimrilim, précisément en raison de la mention du sang. Mais maintenant que nous avons cette lettre de Tel Leilan qui nous montre que l'usage du sang peut très bien intervenir dans des alliances conclues à distance, alors il faut reconsidérer cette interprétation. Si l'on regarde la lettre, il n'y a pas la mention d'une rencontre entre les deux rois, il n'y a pas mention de la présence de notables du roi Charaya, et donc on peut penser que le sang pourrait avoir circulé entre les deux rois de la même manière que c'est décrit à propos de la lettre de Tel Leilan. Reste un dernier point. Les alliances étaient souvent suivies de mariages qui créaient des liens de sang, non pas symboliques, mais réels. Et donc, la question se pose de savoir si, quand un souverain écrit à un homologue « tu es de mon sang », dans quel cas de figure on se trouve. La fin du texte que j'ai cité est très importante, car elle montre la nature du lien créé par un tel pacte. Il s'agit bien de consanguinité, et désormais, les rois étaient considérés comme réellement frères. Lorsqu'un roi réclamait des troupes à un allié pour l'aider à repousser une attaque ennemie, il pouvait faire allusion à ce lien en disant à son homologue « n'es-tu pas de mon sang ?» ou encore en affirmant « tu es de mon sang ». Mais il existait des cas où l'allusion à la communauté de sang renvoyait à une consanguinité sans doute plus réelle que symbolique. Alors, c'est, semble-t-il, le cas dans cette lettre découverte à Eshnouna, dit à Bilalama, je suis ton frère de ta chair et de ton sang. La lettre ne comporte pas le nom de l'expéditeur, mais la suite du message ainsi que le contexte permettent de l'identifier comme le chef amorite Ushashum. À la mort de son père Abdaël, il écrivit donc au roi d'Eshnouna Bilalama, qui se trouvait être doublement son beau-frère, alors c'est un petit peu compliqué, mais à la suite d'une alliance conclue entre Abdaël et Kirikiri, eh bien, on voit que Ushashum avait épousé une cousine de Bilalama et Bilalama avait épousé une sœur d'Ushashum. Donc il y a un double lien, mais malgré tout, il ne s'agit pas d'une consanguinité réelle suite à un mariage dynastique, puisque, selon nos façons de voir en tout cas, c'est seulement à la génération suivante qu'il y aura consanguinité entre les enfants d'Ushashum et ceux de Bilalama. Et donc, la façon de s'exprimer d'Ushashum, écrivant à Bilalama « Je suis ton frère de ta chair et de son sang », semblerait montrer que la distinction que nous faisons entre parenté consanguine et parenté par alliance n'était alors pas aussi forte que nous aurions tendance à le croire. Ce bref aperçu des rites suivis lors de la conclusion des alliances à l'époque amorite montre que le sang y jouait un rôle non négligeable. Il ne s'agissait pas du sang de l'animal immolé. Certes, lors des alliances conclues en réunion, un âne était sacrifié, symbolisant le sang qui attendait le parjure, mais chaque roi pouvait se frotter avec le sang de son partenaire, qu'ils aient été côte à côte ou que l'alliance ait été conclue à distance. Dans ce cas, le geste signifiait les liens de consanguinité désormais établis entre les deux souverains, que rien, sauf la mort, ne pouvait rompre en théorie. Je vous remercie de votre attention.